La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Est-on entré dans un nouveau type d'humanisme, un humanisme numérique ? Qu'advient-il de la citoyenneté à l'heure du numérique ? Quelles menaces le numérique fait-il peser sur notre culture ? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons nous poser dans notre émission ce soir.
Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Niza.
Le numérique est partout, dans notre vie professionnelle, notre vie privée, dans le plus intime de nous-mêmes parfois. L'intériorité humaine peut être aujourd'hui visualisée, numérisée, alors qu'elle était jusque-là réservée au discours psychanalytique ou aux théologies mystiques. L'intelligence artificielle, quant à elle, se développe à vitesse grand V. Objectif, créer des machines intelligentes qui disposeront de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains. Mais quel contrôle l'humain garde-t-il ? On va en discuter ce soir avec nos deux invités. Alors déjà, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous avons tout d'abord le plaisir de recevoir Mila Douéhi. Vous êtes historien des religions et vous avez reçu récemment un titre de docteur honoris causa à l'Université catholique de Louvain. Et à vos côtés, Charles Cuvelier, maître d'enseignement à l'ULB, à l'École Polytechnique, au sein du nouveau master en cybersécurité. Alors, Mila Douéhi, vous avez été l'un des premiers à penser le numérique, non pas comme une technique, mais vraiment comme une nouvelle forme de culture. Le premier à introduire aussi le terme d'humanisme numérique. Vous êtes d'ailleurs titulaire de la chaire d'humanisme numérique à l'Université de Paris-Sorbonne. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment définir ce nouvel humanisme ? Où est-ce qu'il se situe ?
Tout d'abord, je me suis toujours posé la question, pourquoi on est surpris quand on parle d'humanisme numérique, alors que pour moi c'était à la limite, après un certain temps de réflexion et de vie avec l'informatique ou le numérique, c'était devenu une évidence. Alors comment le situer ? C'est à la fois le situer dans la longue durée de notre histoire, l'histoire de nos sociétés occidentales, et la manière dont nos interactions avec les grands moments de révolution technique ou technologique, comme on disait à l'époque, ont façonné à la fois le lien social, des mutations économiques et des mutations culturelles. Il se trouve que le numérique, quant à moi, se situe à ce niveau-là. Du coup, associer humanisme, c'est à la fois faire sortir cette notion de son acceptation, on va dire, classique, parfois nostalgique, associée à la Renaissance exclusivement, et insister sur deux aspects pour aller vite, à la fois l'humain comme vecteur central, et en même temps sur le fait que la notion d'humanisme peut être appliquée. Ça a été fait par plusieurs avant moi, c'est évident. On peut citer deux, trois renoms quand même qui seront reconnus par tout le monde. Claude Lévi-Strauss, le grand anthropologue.
Qui lui avait défini trois types d'humanisme.
Trois types d'humanisme et qui était toujours considéré comme l'homme anti-humaniste par excellence, par certaines lectures qui sont canoniques quasiment. Et alors on va retrouver chez lui un retour assez remarquable sur ces notions d'humanisme. Le grand philosophe, père de la phénoménologie, Edmund Husserl, c'est pareil, mais c'est un autre schéma et on peut citer d'autres. Du coup, il m'a semblé intéressant de faire revenir le numérique vers des discours, que ce soit de la philo, que ce soit de l'ethnologie ou l'anthropologie ou la sociologie, qui vont associer les grandes mutations à des formes d'humanisme.
Alors, souvent, on dit que l'humanisme, il induit peut-être souvent une forme assez humaine stable. Or, ce qui caractérise le numérique, c'est quand même sa réactivité, le fait qu'il y a tout le temps du changement. Il n'y a pas de paradoxe là-dedans ?
Pas quant à moi, parce que l'humanisme n'est pas nécessairement stable. Il a quand même été une révolution importante dans l'histoire de l'Occident. Quand on regarde la Renaissance, ce n'est pas du tout ce qui était avant, ni ce qui est venu après. Par contre, ce que je vous évoquais, c'est à la fois, je dirais, la différence entre les deux rythmes d'évolution, entre le rythme de l'évolution de la société humaine et le rythme de l'évolution, que ce soit de la technique dans un certain temps, et aujourd'hui le rythme de l'évolution du numérique qui est exponentiel en comparaison. Du coup, c'est peut-être cela, cet aspect-là, qui nous pose parfois difficulté entre comment dire, se situer, comment fonctionner dans cet écart qui nous est très très visible.
Alors Charles Cuvelier, donc on voit ici que donc Mila Douéhi nous dit que le numérique ne se limite pas finalement à sa composante technique, mais qui va affecter l'humain en tant que tel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et comment pour vous ça affecte l'humain ?
Je suis d'accord, mais je pense que ce type d'humanisme doit encore mûrir. Aujourd'hui, on voit par exemple les promesses d'Internet qui sont l'abondance, la gratuité, la diversité. C'est très bien, mais quand on regarde cette abondance sur YouTube, par exemple, ou sur d'autres plateformes, c'est une abondance de qualité médiocre qui dépasse de loin les promesses de culture pour tous, d'ouverture pour tous. Et je me pose des questions. Pourquoi les YouTubeurs, ceux qui déposent des vidéos ou ceux qui les regardent, prennent d'office le contenu le plus facile d'accès? Donc, quand je vois ça, je me pose des questions. Et je ne suis pas le premier, d'autres chercheurs l'ont fait avant moi. Et on avance même dans cette matière-là une explication économique qui vient de ce que le coût de production et le coût de distribution de ce type de contenu, on va l'appeler contenu culturel, est quasiment nul. Donc, on a à disposition un contenu, je dirais, totalement gratuit et par paresse intellectuelle, on le regarde à défaut de celui qui aurait pu élever l'humanité vers la connaissance universelle.
Vous êtes assez pessimiste sur le sur la capacité des gens à effectivement à s'intéresser au plus à ce qui peut être le plus intéressant ou ce qui peut élever la société.
Je vais très prosaïque et c'est peut-être mon côté technique ou économiste qui prend le dessus. Si ce contenu était payant, forcément, on ne regarderait plus n'importe quoi. Il y a un théorème en économie qui s'appelle le théorème d'Alshan-Allen qui en donne une explication qu'on essaie de transposer au contenu gratuit de YouTube. Ce théorème dit la chose suivante. Il prend l'exemple de la production de pommes à Seattle. C'est l'exemple historique pris par ces deux découvreurs. Si vous avez une pomme de bonne qualité qui coûte 10 cents et une pomme de mauvaise qualité qui coûte 5 cents, finalement, si vous êtes local à Seattle, vous allez très vite faire le calcul et vous rendre compte qu'il est plus intéressant d'avoir deux pommes de qualité moyenne pour le prix d'une de bonne qualité. Si ces pommes sont exportées à New York, disons qu'elles ont un coût de transport de 5 cents, on arrive pour un client à New York avec une pomme de bonne qualité à 15 cents et une pomme de mauvaise qualité à 10 cents. Donc le calcul est moins évident. Le client à New York va se dire « la différence n'en vaut plus la peine, je prends la pomme de bonne qualité pour 5 cents de plus, ça en vaut la peine ». Eh bien, si on transpose ce raisonnement-là à YouTube, on se rend compte que là, on a l'équivalent de la pomme de mauvaise qualité, c'est le contenu gratuit. Mmh. Et donc, tout le monde se rue sur le contenu gratuit. Donc, il y a une certaine forme de valorisation sociale à donner au contenu. Et cette valorisation sociale, aujourd'hui, dans notre monde capitaliste, elle passe aussi par la valeur qu'on lui accorde, valeur qui est une valeur monétaire. Donc, oui, si on me reproche de faire un raisonnement économique pour élever l'homme vers plus d'humanisme, alors je suis pessimiste.
Alors, donc on l'a vu, les réseaux numériques, ils vont pas sans les machines informatiques. Mais aujourd'hui, la question, c'est aussi, mais qui contrôle l'accès de ces machines? Qui établit les finalités de ces machines? Et donc là, il y a peut-être la question de qui contrôle derrière et est-ce que l'humain n'a pas laissé trop de contrôle, soit aux machines, soit aux personnes derrière? Milad Douahi.
Ah, c'est une double question. Effectivement, parmi les grands acteurs, on va dire les grandes plateformes, Facebook, YouTube qui appartient à Google ou Alphabet, comme on dit maintenant, et d'autres, effectivement, ce sont des entreprises commerciales qui sont là dans la plus grande majorité. C'est de la publicité qui génère, c'est leur business model, comme on dit. Ça, c'est une manière de penser un petit peu. Du coup, il y a derrière, malgré certaines formes d'automatisation, un intérêt économique avec des négociations qui peuvent être complexes ou non selon les cas, qui peuvent se décliner. Je crois l'autre second aspect, si je comprends bien votre question, c'est d'essayer de réfléchir à ce qu'il y a, qui est souvent cité comme l'intelligence artificielle automatisée, relativement autonome, qui déplace en quelque sorte l'humain comme étant l'agent en contrôle ou en tout cas souverain d'un certain point de vue vis-à-vis que ce soit son libre arbitre, on va dire, pour aller vite, ou bien certaines décisions qu'il peut prendre. Et la manière dont cette forme d'intelligence artificielle peut se décliner, ça peut être par des choix qui sont faits automatiquement et imposés, ça peut être par la puissance de modèles de recommandation qu'on peut retrouver à la fois sur des plateformes, on va dire commerciales ou d'autres, et pour être embauché, il y a maintenant des algorithmes qui vont vérifier telle ou telle chose. Je crois là, on est sur deux registres un peu différents. Quant à moi, c'est pas du tout la même chose. Et certaines formes de ces intelligences artificielles, on les connaît depuis longtemps, ce sont des systèmes experts. Ce n'est pas nécessairement de forme de l'intelligence artificielle. D'autres, ce sont des systèmes qui sont apprenants. Ça devient beaucoup plus intéressant. À quelle sorte d'apprentissage maîtrise-t-on? Comment ces machines apprennent, c'est-à-dire de l'apprentissage qu'on peut contrôler et guider, ou bien c'est quelque chose qu'on me dit non supervisé, et du coup ça échappe à l'humain.
Avec cette crainte que tout à coup le robot ne dépasse l'humain.
Moi je crois, moi je vais dire deux réponses très très rapides, puis après laisser à mon collègue dire ce qu'il en pense. Je veux dire, d'un côté, on a un discours qui est comme un préjugé monothéiste. C'est-à-dire, on va décrire l'intelligence artificielle selon le récit de la Genèse. Il y a la création, il y a la chute, il y a la séparation. Et du coup, on recrée, on peut arriver au golem. Du coup, c'est intéressant pour les robots et les machines intelligentes. Je crois que c'est un préjugé monotiste. Mais l'autre aspect, je crois, c'est le mot « intelligence » qui nous fait problème. Et à mon sens, c'est un mot qui est à la fois un piège et un leurre. Dans la plus grande majorité des cas, il s'agit des machines qui apprennent. Ce sont des formes d'apprentissage qui peuvent se traduire dans quelque sorte, qui seraient de l'ordre de l'intelligence. Du coup, il faut qu'on interroge, ce qui n'exclut pas du tout les questions, que ce soit d'ordre politique et éthique, pour ne pas dire économique, évidemment.
Mmh. Mais du coup, je vais vous faire réagir, Charles Cuvelier, en reprenant une phrase que vous avez écrite dans un article paru dans Les Échos fin 2017, où vous disiez « L'intelligence artificielle nous apprend que la révolution digitale n'est plus seulement en train de produire des données, elle met en place une intelligence capable d'en faire usage. C'est cela la vraie promesse de l'Internet des objets. » Est-ce que vous pouvez nous commenter ça par rapport aussi à ce que Milad Douéhi venait de dire ?
J'ai envie de dire que l'Internet des objets est la promesse de la rematérialisation du numérique, si tant est qu'on considère qu'elle était dématérialisée et donc inhumaine par cet aspect-là. L'Internet des objets nous redonne un contact avec le monde réel par l'interface numérique. Quand il n'y avait pas le numérique, finalement, notre rapport au monde réel et au monde des objets était par des interfaces analogiques. Donc chaque objet avait son mode d'interaction avec l'humain, un mode d'emploi, des réglages difficiles, pour être très prosaïque. Aujourd'hui, l'Internet des objets a la promesse de nous offrir une interface uniforme, standardisée, une manière de gérer cet objet, de le commander et d'en retirer les données, totalement uniforme, quel que soit l'objet considéré. Donc, si vous voulez, le monde numérique est comme une éponge par rapport au monde qui nous entoure, et c'est une bonne promesse de l'Internet des objets qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de transformation digitale, on ne dit pas par rapport à quel type d'industrie on va l'appliquer. Non, elle est uniforme à toutes les industries. Il n'y a pas de transformation digitale pour une industrie qui serait particulière. Elles sont toutes les mêmes, ces industries, par rapport à la transformation digitale, parce qu'il y a cet Internet des objets, ces interfaces numériques qui offrent le même type de données à ceux qui veulent avoir ce nouveau rapport au monde physique.
Et donc ça veut dire qu'on ne doit pas craindre finalement que l'intelligence artificielle n'ait plus besoin de l'humain pour produire. On ne doit pas craindre cet Internet des objets.
Alors la peur qu'il y a sur l'intelligence artificielle vient de la très mauvaise définition un peu utopique qui lui a été donnée en 1955. Elle était vue comme la création de programmes informatiques qui, quoi qu'on leur confie, feraient les tâches humaines mieux que les humains. Cette définition utopique, c'est elle qui génère aujourd'hui les peurs que l'on voit, alors qu'elles sont totalement disproportionnées et tout à fait exagérées. Mon collègue le dit très bien, on confond souvent aujourd'hui l'intelligence artificielle avec le machine learning, et c'est ça qui fait peur, mais il y a quantité d'autres d'intelligence artificielle. Et les peurs qu'on a par rapport à l'intelligence artificielle, c'est par rapport à un monde où l'intelligence artificielle serait pervasive, totalement uniforme, répandue. Or, il y a beaucoup à faire avant de la mettre en place. Il y a beaucoup d'obstacles avant de la créer. Et ces obstacles tiennent essentiellement aux données dont on a besoin pour les alimenter. Ces données, elles sont abondantes, mais elles sont peut-être biaisées. Si elles sont biaisées, elles vont donc donner lieu à des algorithmes de départ qui vont biaiser le résultat final. Alimenter l'intelligence artificielle avec des données antérieures, c'est aussi prendre l'hypothèse que le futur sera comme le présent. Donc c'est impossible d'avoir du changement, c'est impossible d'avoir des révolutions, c'est impossible d'avoir le progrès au sens le plus noble du terme, en faisant abstraction du passé. Donc on a encore beaucoup d'obstacles pour une intelligence artificielle qui aurait le pouvoir qu'on voudrait lui confier et qui nous fait peur. Et justement, ces obstacles sont là pour mieux cadrer l'intelligence artificielle. Et prendre le temps de réfléchir en surmontant ces obstacles, mais qu'est-ce qu'on veut lui faire? Et en fait, j'ai envie de dire ceci, c'est que le tandem intelligence artificielle-être humain est parfait quand il y a de l'ambiguïté. Parce que quand il y a de l'ambiguïté, l'intelligence artificielle ne peut rien faire. Puis l'intelligence artificielle, elle est très bien pour compléter l'humain, parce que l'humain n'aime pas traiter les données. et il confond toujours le hautement probable avec le facilement envisageable et imaginable. Et c'est là où l'humain est très mauvais, il fait la confusion des deux. L'intelligence artificielle pourrait lui dire le facilement envisageable parce que tu aimes ça, moi je te dis que c'est pas juste, restons au hautement probable, c'est mon rôle.
Alors, vous êtes toujours dans Libre Ensemble. On parle aujourd'hui du numérique, de l'humanisme numérique, de l'intelligence artificielle et de du rôle peut-être que le citoyen doit reprendre là-dedans. Et on en parle avec Milad Douéhi, historien des religions, titulaire de la chaire d'humanisme numérique à l'Université de Paris-Sorbonne. On en parle aussi avec Charles Cuvelier, maître d'enseignement à l'ULB au sein du nouveau master en cybersécurité. Alors, du coup, je voudrais revenir à cette question qui était un peu la question de départ. Qu'advient-il finalement de la citoyenneté à l'heure du numérique? Alors, vous avez parlé tout à l'heure, on parlait un peu du fait que le citoyen pouvait avoir peur de confier à des machines le contrôle et un peu trop de contrôle. Est-ce qu'on ne peut pas craindre aussi de donner trop d'informations au pays qui nous gouverne? Alors, on a déjà parlé un peu des privés, mais est-ce qu'au niveau du public, on s'interroge suffisamment de cette surveillance des données, de cette collecte de données qu'on donne sans toujours s'en rendre compte?
Il faut s'y interroger, surtout vu l'histoire récente, effectivement, depuis les révélations autour de la NSA, mais ailleurs. Mais je crois que ce n'est pas surprenant non plus, parce qu'on a changé de registre et de paradigme, à mon sens. Et c'est la nature de l'information elle-même, sa matérialité, j'irais même. Et si on veut citer un exemple, je vais prendre l'exemple d'une grande figure, Herbert Simon, qui a été à la fois Nobel en économie et prix Turing pour l'informatique, et qui a expliqué assez tôt en fait que à cause de la matérialité de l'information, tout change. Et surtout les modèles économiques vont évoluer. Du coup, aujourd'hui, on parle de l'économie de l'attention qui va donner également en même temps à la collecte massive des données et du coup les effets de la surveillance qui peuvent susciter des inquiétudes, pour ne pas dire parfois des angoisses du point de vue du citoyen. À mon sens, peut-être il y a plusieurs façons de parler de ça. Moi, je vais opter peut-être pour la version la plus simple ou banale, peut-être, ça dépend. C'est-à-dire que c'est la question de la confiance. Le rapport du citoyen avec les autorités, avec les élus, avec le service public et ainsi de suite, c'est un rapport de confiance. Ce qu'on est en train de témoigner d'une certaine fragilisation de ce rapport de confiance pour toute une série de raisons. Ça peut être la sécurité, ça peut être l'amélioration de la gestion des fonds publics, peu importe, mais à la longue, c'est une question de confiance qui est déterminante. Moi, j'aimerais juste dire une chose, c'est que la confiance n'admet pas en principe un calcul de risque autour des notions de sécurité. C'est d'habitude exclusif. Et pourtant, le discours politique ou sécuritaire insiste beaucoup sur cet échange, sur cet marché entre « donnez-nous un peu plus d'accès pour qu'on vous donne un peu plus de sécurité ». À mon avis, là, il y a une vraie question citoyenne qui va nous permettre peut-être d'engager un vrai dialogue autour de ces questions-là.
Est-ce que les gens sont suffisamment conscients, les citoyens sont suffisamment conscients de ça et de cette importance de se mobiliser sur cette question?
Ça dépend où est-ce qu'on est. En tout cas, moi, de mon côté américain, je dirais qu'on est davantage conscient aujourd'hui qu'on l'était il y a 2 ans. Alors après, comment ça va se traduire au fur et à mesure, ça prend du temps, je dirais. Mais on voit quand même une certaine évolution. Je crois que les gens ont compris aussi que malgré des formes d'anonymat, quand c'est imaginé nous protège, en fait, il est extrêmement facile de les contourner par la nature et la masse de données disponibles et la capacité de les analyser automatiquement et rapidement.
Mmh. Peut-être une réaction, Charles Cuvelier, vous qui travaillez justement master en cybersécurité, j'imagine que cette question de la surveillance est une question qui vous anime aussi.
Oui, moi j'ai toujours été frappé, on parle de la confiance du citoyen vis-à-vis des autorités et... Ce qui me frappe, c'est la méfiance des citoyens vis-à-vis de la collecte des données que pourraient faire les autorités, qui pourtant, quand elle arrive, elle est très cadrée et elle le sera de plus en plus avec les directives GDPR, par exemple, dont on parle beaucoup.
Le GDPR, c'est-à-dire? Juste pour nos auditeurs...
Oui, pardon, j'en parle tous les jours, donc j'en oublie que c'est un acronyme. C'est le Règlement Général pour la Protection des Données, donc RGPD en français. Il s'agit d'une directive qui remet à à plat à l'ère numérique, précisément tout ce qui était protection des données au niveau de ce que vous donnez comme données à des entités, des institutions, des entreprises. Et la régulation datait de 1995, elle avait complètement vieilli. Et c'est cette ancienne régulation que les géants d'Internet utilisaient pour faire à peu près n'importe quoi avec nos données, tandis que les opérateurs télécoms étaient soumis à un autre type de régulation qui leur permettait de ne rien faire. Voilà, ça c'est en deux mots ce qu'est le RGPD. Et ce RGPD en fait remet tout le monde sur pied d'égalité, et c'est un serrage de vis pour les géants d'Internet, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais c'était nécessaire parce que aujourd'hui, on voit que les citoyens sont méfiants par rapport à la collecte de données des États qui est très cadrée, couverte par des lois, et finalement étaient assez fatalistes, pas trop craintifs par rapport à la collecte des données que font les géants d'Internet. Pourquoi cette différence ? Elle est, à mon sens, totalement aberrante, parce que dans les deux cas, il y a une exploitation des données, et je crois que il ne faut pas se leurrer, elle est utile parce qu'elle permet de disposer de services gratuitement, mais elle doit être cadrée, et c'est la promesse que fait l'Europe par rapport à tout ce serrage de vis autour de la protection des données et qui fait bondir les États-Unis.
Oui, alors vous me disiez peut-être, Milad Ouéhi, en préparant l'émission, que c'est vrai qu'on était peut-être plus méfiant vis-à-vis des autorités publiques que vis-à-vis de certaines entreprises privées.
C'est ce qu'on
fait. Et c'est vrai que, par exemple, vous me parliez du cas d'Amazon, où là, par exemple, on n'est pas trop méfiant, alors que cette entreprise collecte beaucoup, beaucoup de données sans qu'on s'en rende compte, par exemple.
En tout cas, tous les grands acteurs collectent énormément de données. Ça, c'est évident, c'est devenu un petit peu la ruée vers l'or. Et à mon avis, moi, je me pose une question. Est-ce qu'on n'arrive pas à un certain moment de crise de ce modèle ? Ce qui ne veut pas dire que les données ne vont pas rester, vont toujours être importantes, mais le modèle actuel des exploitations des données, à mon avis, est en crise. On le voit dans le cas de Facebook. Mais je voudrais dire un petit mot au sujet de la régulation européenne, qui est admirable d'un certain point de vue. Mais je me pose la question si elle n'est pas trop lourde, trop complexe, que ça soit du côté des entreprises, et surtout qu'elle va susciter des négociations très très difficiles avec l'autre acteur de l'autre côté de l'Atlantique, non pas seulement pour des raisons économiques qui sont toujours essentielles, mais aussi pour de conflits de traditions juridiques autour de la manière dont on va concevoir le lien entre le citoyen et ses données. Et là, on est dans des débats qui vont durer, à mon avis, et qui vont être assez rudes. Il se peut que je me trompe. Je suis en partie pour cette manière de créer la bulle juridique qui va accompagner et protéger le citoyen européen. Mais en même temps, je me pose la question, parce que aujourd'hui, on est confronté à des acteurs dont la plus grande majorité qui viennent de l'Amérique du Nord, mais prochainement vers des acteurs qui viennent de la Chine, qui vont venir aussi d'ailleurs. Je crois qu'il faut qu'on repense le modèle, et je ne suis pas sûr aujourd'hui que c'est peut-être le meilleur modèle. Je n'ai pas d'alternative. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un juriste, je comprends. C'est un processus très très complexe, très très lent, qui est négocié à plusieurs niveaux. Mais néanmoins, je me pose la question, au-delà juste de la résistance américaine classique qu'on peut critiquer et prévoir.
Mais du coup, je vais juste réagir sur ce que vous disiez. Vous dites ça prend beaucoup de temps, toutes ces législations, etc. Or, la force du numérique, c'est d'aller très vite, de changer beaucoup, etc. Est-ce que du coup, on n'a pas à chaque fois un temps trop tard ? Est-ce que les législations n'arrivent pas à chaque fois trop tard par rapport aux évolutions techniques ?
On a toujours reproché ça. Je crois que c'est le scénario classique. Hein. Après, il y a peut-être d'autres manières de voir comment ça peut évoluer. Mais en gros, quand on regarde de près, on était certainement dans des formes de sociabilité. On est passé maintenant vers tout ce qui est de l'ordre des données. Maintenant, on nous annonce ou bien l'Internet des objets qui vont de pair avec certaines manières d'exploiter les données pour défendre des gens. On voit qu'il y a des mots-clés. Il y a eu le cloud à un certain moment. Maintenant, c'est devenu quasiment naturalisé. On n'en parle plus. Peut-être on va parler des questions de durabilité, de ressources énergétiques associées à l'exploitation, à la collecte des données. On voit très bien qu'on a énormément de pistes qui peuvent se présenter. C'est extrêmement difficile. Alors du coup, ce que vous évoquez, moi, ce que j'ai essayé de dire avant, c'est toujours cet écart des rythmes qui est très intéressant et qui revient sans cesse, pas seulement du point de vue juridique, mais aussi de tous les autres points de vue.
Alors, je voudrais revenir sur une question que vous avez abordée tous les deux lors d'un colloque qui a eu lieu au mois de novembre et qui était organisé par la Fondation Henri Lafontaine. Et ce colloque abordait la question de la fin de l'utopie Internet. Et une des questions qui était posée, c'était que reste-t-il de l'héritage des fondateurs et des visionnaires du réseau Internet qui avait été incarné par la célèbre déclaration d'indépendance du cyberespace. Alors, j'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Qu'est-ce qui reste de cette indépendance, cette déclaration d'indépendance ?
Tout d'abord, il reste cette dimension utopique de la libre circulation qui n'est pas juste une utopie, c'est quelque chose d'essentiel même. Hein. Une idée où l'identité territoriale et classique n'est pas nécessairement la plus déterminante. On peut décliner plusieurs choses et en même temps certains oublis. Certaines mauvaises lectures, à mon avis, de l'époque, surtout par l'idéologie, on va dire, de cette déclaration d'indépendance, où elle avait essayé de se dissocier complètement, que ce soit des structures et des infrastructures socio-économiques de nos sociétés, en disant on va créer un monde parallèle ailleurs, et évidemment, ça s'est avéré complètement pas être le cas. Et l'autre aspect qui, pour moi, est important, c'est le corps. Le corps a été complètement éliminé, il est même explicitement exclu de cette déclaration, alors qu'aujourd'hui, effectivement, le corps est devenu un livreur de données, une interface au numérique avec qui va de la biométrie jusqu'à tout ce qu'on sait, la voix, toute une série de choses qui sont de l'ordre du corps sont revenues avec force et même des termes du corps. Et c'est une lecture intéressante qui a façonné. Il faut, à mon sens, et je vais m'arrêter là, mettre en même temps, en parallèle, le moment de cette déclaration avec deux autres mouvements qui reviennent aujourd'hui, mais mon collègue est à mon avis beaucoup plus compétent que moi, ce sont les cyberpunk, le cyberpunk et les cybercrypto. C'est-à-dire tous les mouvements qui étaient pour le chiffrement, pour une certaine notion qui peut être libertaire dans le sens américain du terme, mais avec des assises techniques autour de la liberté de l'expression à l'extrême et du coup le droit de protéger ses communications, peu importe ce qu'on dit, et qui revient par le biais des soucis sécuritaires et de surveillance. Et c'est la même période, c'est la même époque, c'est presque les mêmes milieux qui discutaient, échangeaient à l'époque en Californie du Nord et ailleurs.
Mais du coup, la même question, Charles Cuvelier, peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Et pour vous, qu'est-ce qui reste de cet héritage donc, de la déclaration d'indépendance du cyberespace ?
Bien, je suis optimiste parce que cet héritage, pour moi, il est toujours présent. Internet est toujours indépendant des États. Aucun État n'a préempté Internet. On a quelques tentatives bien réussies, plus ou moins bien réussies avec la Chine, bien entendu. Je vais y revenir. La Russie aussi. Donc les États essayent un peu de censurer. Mais Internet reste au-dessus des États et on le doit à une institution peu connue du public qui est l'ICANN, qui est en fait l'organisme qui distribue les noms de domaine. Et de fait, sans l'ICANN, vous êtes inexistant sur Internet parce que vous n'avez fait pas un nom de domaine par lequel vous pouvez être présent sur Internet. Cette ICANN est en quelque sorte l'ONU d'Internet, mais un ONU aux mains du citoyen. Si vous dites ça à l'ICANN, l'ICANN n'aime pas du tout être comparé à l'ONU pour les lourdeurs que l'on lui connaît, mais c'est pour ça que je mets bien l'ONU citoyen. Vous avez les États qui sont représentés sous forme consultative, mais pas plus que ça, c'est vraiment un titre tout à fait anecdotique. Je dirais ceci, les Chinois ont par contre réussi à faire un intranet au lieu d'un internet, ils ont bien réussi à verrouiller, donc vous avez un internet chinois, et par le fait qu'ils ont interdit à Google ou Facebook d'agir en Chine, ils ont pu en plus créer les champions qui font peur à Google et à Facebook, je pense à Tencent, Alibaba, etc. Donc la Chine montre malheureusement le mauvais exemple, c'est qu'en censurant, on peut être en plus très performant économiquement. La Russie tente aussi de censurer de manière plus ou moins permanente. Donc j'ai envie de dire, c'est pas gagné. Donc la déclaration d'indépendance, elle est encore à assurer devant nous plutôt que derrière nous, parce que l'Internet des objets peut très bien donner lieu à un deuxième type d'Internet qui n'a plus rien à voir avec l'Internet des humains que nous connaissons aujourd'hui. C'est un défi. Alors un autre défi est également la géopolitique. La géopolitique n'est plus du tout à la globalisation, donc il est évident que cette évolution géopolitique, cette tendance pourrait contaminer Internet. Ce sont les défis de l'ICANN aujourd'hui. Alors vous avez le dernier point qui est la neutralité du net, qui porte aussi en germe l'indépendance, la neutralité d'Internet à toute forme de contenu, de trafic, etc.
Oui, ça, évidemment, on voit qu'on a reposé cette question de la neutralité d'Internet aux États-Unis, d'ailleurs, ces dernières semaines. Bah, donc, on est déjà à la fin de cette émission, mais en tout cas, je vous remercie tous les deux, donc Charles Cuvelier, maître d'enseignement à l'ULB, et Milad Douéhi, donc historien des religions, et donc vous êtes professeur à l'Université Paris-Sorbonne. Alors, je vais juste citer votre dernier ouvrage, Milad Douéhi, qui s'intitule « Du matérialisme numérique » qui a été publié en 2017 par les éditions Hermann. Et alors, il y a un point intéressant, on n'aura pas le temps de l'aborder aujourd'hui, mais voilà, j'invite les auditeurs à le lire ou à lire l'interview qu'on a faite aussi avec vous dans notre magazine Espace de Liberté, où vous comparez finalement le numérique à une nouvelle forme de religion, à un nouveau dogme. C'est un point assez intéressant du livre. Voilà, donc en tout cas, merci à tous les deux.
Merci
à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.
En quête de sens sur la première.